Vous êtes à l'écoute de Radio Brume 90.7, une nouvelle émission Confluence Cinéma avec nos amis Raphaël et Hakim. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir, bonsoir à vous, Amaury. Auditeurs de Brume, et à toi, Amaury.
Alors, pas mal de choses, de belles choses, justement, cette semaine, parce qu'on est allé voir pour vous le dernier film de Jim Jarmusch et en même temps le dernier film de Wes Anderson aussi.
Oui, les grands auteurs américains sont de retour, j'ai envie de dire. Hein. Et, d'ailleurs, on n'avait pas eu la chance avec Hakim, on avait raté le Jarmusch justement à Cannes, Only Lovers Left Alive, qui est donc un film de vampires. Et on reviendra dans une troisième partie justement sur les vampires un petit peu
Au
cinéma depuis leur création, un petit peu en littérature, je pense aussi.
Au plus cinéma, parce qu'on va dire qu'ils ont... Il y a eu plusieurs vagues de représentation du vampire au cinéma, plus ou moins modéré, plus ou moins
transgressif,
des tendances différentes. Et puis voilà.
Alors, on commence par quoi ? On va commencer par le crocodile du Botswana, tiens, par exemple. Ça va être notre
le film pour
du Botswanga, parce que c'est un pays imaginaire. Donc oui, choix étrange, comédie française.
Avec notre ami Thomas Ndijol, non ?
Ouais, Ndijol et Fabrice Eboué. J'aurais pu parler de Superchondriaque, de Danny Boone, mais
tu l'as vu ?
Non, pas encore. Peut-être la semaine prochaine. Et j'ai décidé de vous parler de ça parce que j'aime bien les comédies politiques, les comédies un petit peu osées. Et j'ai beaucoup aimé dernièrement, là, alors Caisse des Parcs, c'était donc le premier film du duo Ndijol, Fabrice Eboué, donc des comédiens de stand-up à la base issus du Jamel Comedy Club. Et il y avait comme ça, dans Caisse des Parcs, un côté assez mordant, assez osé, hein, puisqu'il traitait en fait de l'esclavage sur un thème un peu Les Visiteurs, mais en tout cas, il y avait un thème comme ça assez culotté. Bien avant Tarantino et Django, oui, trois ans avant quand même, 2009, si je ne m'abuse. Et donc là, ils reviennent avec le crocodile du Botswanga. C'est donc l'histoire de, je ne sais plus comment il s'appelle, Leslie Konda, voilà, un jeune footballeur prometteur qui vient de signer au Barça. Et il est botswangais et il rêve en fait de disperser les cendres de sa mère dans son village natal. Et donc son agent, qui est joué par Fabrice Eboué, qui est un personnage assez... ou en couleur, on pourrait dire, il s'est passé pour juif, par exemple, pour mieux réussir les affaires. On voit un petit peu le niveau de Fabrice Eboué. Hein. Décide de l'emmener là-bas, au Botswanga, et ils vont rencontrer le dictateur local, qui s'appelle, je crois, Bobo Babimbi, je crois. Donc, en gros, c'est Idi Amin Dada, tous ces grands personnages africains, Mobutu, etc., tous ces grands dictateurs Bokassa. Hein. Et donc, voilà, c'est la franche rigolade, et on va voir un petit peu, à droite et à gauche, tout ce qui fait la force, on pourrait dire, de ce pays et de ce dictateur. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans ce film, c'était un peu comme Caisse Départ, c'est le courage un peu en France de faire un film comme ça avec des héros noirs sur l'Afrique et surtout de parler de la France-Afrique, qui est quand même encore un sujet tabou en France aujourd'hui. Hein. Donc, dans le film, on retrouve un personnage qui est inspiré de Jacques Foccart. Donc, Jacques Foccart, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un secrétaire général à l'époque du général de Gaulle, etc., qui était chargé de la colonisation, en fait, des affaires africaines et malgache, par exemple. Donc, on critique allègrement ce système-là qui existe encore aujourd'hui. Hein. Il y a une parodie, d'ailleurs, de Total dans le film qui s'appelle Totelf. Donc, il y a vraiment des pures trouvailles comme ça qui sont très, très, très drôles. Et puis, ça va, mais vraiment, ça se paye tout, quoi. Ça va dans tous les sens. On se moque des Juifs, des Chinois, du sida. Il y a un très bon gag sur le sida. Le dictateur africain local, en fait, fait passer une pub à la télé, puisqu'il a créé un médicament pour vaincre le sida, pour toujours, toujours manipuler les populations. Donc, on pourrait croire que c'est un film comme ça assez manichéen, mais pas du tout, quoi. Ça rentre dans l'art de tout le monde, et c'est surtout très, très bien incarné par Thomas Ndijol, hein, qui joue le dictateur local. Il est vraiment très, 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 très bon. Mais j'aurais un tout petit reproche à faire au film, c'est que je le trouve quand même légèrement moins mordant que leur précédent film Caisse Départ. C'est légèrement drôle puisque ça joue un peu sur les mêmes ressorts comiques. La confrontation entre la culture un petit peu occidentale et la culture africaine. Avant, c'était la culture antillaise, hein, mais ça revient au même. Hein. Et donc, ils rejouent un peu sur les mêmes ressorts que leur premier film. Et c'est un peu dommage. Du coup, ça perd un petit peu de la surprise et de l'originalité. Mais je trouve que ça reste vraiment très courageux dans le paysage comique français aujourd'hui où plus aucune comédie prend des risques. Justement, le cas de Danny Boone aujourd'hui. Je pense que je le ferai la semaine prochaine, Danny Boone.
Bon, si, il y a un humoriste qui prend des risques, mais à ses risques et périls, hein. C'est Dieudonné. Hein.
Oui, bah... mais justement on y pense forcément. Mais je trouve que Fabrice Eboué, par exemple, qui est vraiment dans la filiation de Dieudonné en tapant sur les Juifs, sur les Noirs, etc., il est beaucoup plus fin.
Enfin, après, on va pas ouvrir le débat de Dieudonné ici, je pense.
Non, mais c'est intéressant.
Dieudonné, c'est quand même plus... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de plus politique, presque, finalement... Ça en devient presque un discours extrémiste. Non, mais
vu qu'il évoquait une œuvre enfin française qui ose taper sur des sujets tabous.
C'est ça, voilà, mais c'est ça.
Oui, mais je veux dire, à un moment donné, pour moi, c'est mon avis, Dieudonné, il utilise plus maintenant l'humour comme un troisième rideau. Et en fait, pour moi, c'est un homme politique, quoi. Je veux dire,
exactement. Mais eux, on voit vraiment, c'est vraiment une farce, hein, du début à la
plus,
fin.
Mais sans parler de ça, c'est que c'est plus du tout un humoriste, quoi.
Et le film n'a justement pas souffert de justement cette comparaison. Est-ce que certains critiques, j'ai rien lu du tout sur le film, mais est-ce que ça n'a pas...
J'ai vu aussi, chez Laurent Ruquier, évidemment, dans les grandes émissions comme ça, ils en ont parlé, mais sinon, dans les critiques...
Ça dérange pas, du coup.
Non, parce que c'est vraiment un film qui est drôle, quoi, tout simplement. Ce n'est pas un film qui fait de la politique. Voilà, exactement. Ça tape sur tout le monde, c'est pas sur les juifs ou je sais pas quoi. Les noirs s'en prennent plein la gueule, vraiment, du début à la fin. Et non, c'est assez osé, assez culotté. Et puis c'est drôle, quoi. Du moment que c'est drôle, on peut tout se permettre, je pense.
Bon, on va parler alors d'un autre film qui nous a tous bien plu. C'est donc le dernier film de Wes Anderson. Alors, qui c'est qui a envie de commencer ?
Ça va être un petit peu compliqué pour moi, car je l'ai vu il y a 3 heures. C'est pour reprendre les paroles de Raphaël, qui est le même opinion que moi. Hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être le meilleur film de son auteur, qui m'avait un petit peu déçu avec Moonrise Kingdom, qui était son dernier film, où il se prenait un peu plus au sérieux, où il était un peu moins fantaisiste, un peu moins créatif.
Plus enfantin.
Plus enfantin. Mr. Fox, c'était avant d'avoir vu son dernier film, était son meilleur film pour moi. C'était quand même déjà bien enfantin. C'était une belle fable. Je sais que tu l'as pas vu, mais je crois que c'est un très grand créateur, Wes Anderson. C'est quand même un gars de 44 ans qui est né au Texas. Quand même pas l'oublier quand on le voit, sorte de petit dandy avec ses longs cheveux, un peu blond, rouquin, on dirait pas. Et pourtant, je pense que là, on tient le Tim Burton des années 2000, de notre génération, cette sorte d'artiste qui a su créer un univers à son image, qui lui est propre, avec pas trop de références, même s'il y en a 2-3, notamment Hitchcockienne dans son dernier film. Mais je pense qu'il y a un avant et un après Wes Anderson. Dorénavant, on va pouvoir reconnaître son œuvre, ça pas très très facilement. Et beaucoup de jeunes futurs artistes, que ce soit plasticiens ou artistes cinématographiques, vont reprendre son travail. C'est plus qu'un cinéaste. C'est un, je sais même pas s'il a eu des. Non, il a même pas de formation d'art plastique. C'est un gars qui
est plasticien, il met.
Non, il a fait la philosophie.
Dans la construction de ses plans, on a
Il a une image de ça, justement. C'est quasiment, je pense, le réalisateur aujourd'hui, toute génération confondue, qui a la plus belle image. Quoi.
Ah, ça, c'est clair.
Je veux dire, moi, tous mes amis photographes professionnels bavent devant Wes Anderson, parce qu'il y a vraiment quelque chose, c'est on dirait que c'est des photographies.
Et la composition des plans, surtout, la géométrie, la symétrie.
Les couleurs.
Une mise en scène très kubrickienne avec un choix de. Alors, le film, c'est.
On va faire un petit pitch, du coup.
C'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est quand même assez dense, c'est assez speed, c'est l'équivalent d'un tour grand 8. Hein, avec... Le film est structuré à façon des poupées russes. Hein, on commence. Le film se passe sur plusieurs années et chaque année a un format différent. On passe du 16/9 au 4/3 au 1/33. Ça m'a rappelé un peu le travail qu'avait fait Soderbergh sur Traffic de mai 2000, où il avait mis une couleur différente à chaque époque, chaque période. Et là, on commence le film dans les années 80, où il y a une fille qui va mettre une petite médaille sur le buste d'un écrivain. On comprend que c'est un écrivain à succès qui a connu le succès grâce à un livre, hein, intitulé The Budapest Hotel, et l'idée lui est venue quelques années auparavant lorsqu'il a rencontré le directeur du Budapest Hotel. Et cette personne-là va lui raconter justement toutes les péripéties, toutes les mésaventures qu'il a eues et qui va ensuite lui permettre d'acquérir cet hôtel.
Parce que ce directeur, il a commencé comme le plus bas échelle, c'est-à-dire le lobby boy. Quoi.
Voilà. Et voilà, c'est un peu dense, c'est assez... assez compliqué de raconter toutes les péripéties du film. Moi, je trouve que c'est un film qui, visuellement, est sublime.
Il y a une pâtisserie. Petit bonbon rose, comme ça.
Alors, il y a des mouvements de caméra assez ahurissants, des mouvements de travelling, des zooms assez rapides qui rappellent les zooms de Kubrick dans Shining, etc., etc. En plus, ça se passe dans un grand hôtel. Il y a un panorama de différents lieux, de différents paysages qui sont hallucinants. Là, on se passe en hiver et donc tu as des magnifiques paysages de la forêt enneigée des pays de l'Est. Comme tu l'as dit, je crois que c'est un bonbon. D'ailleurs, il y a beaucoup de bonbons. On parle beaucoup de bonbons, de pâtisserie dans le film.
Ouais.
Il y a des personnages. Alors, c'est une ribambelle de stars. Hein, donc, on retrouve les acteurs
ils sont tous
familiers
hein.
de l'univers de Wes Anderson. Bill Murray.
On ne va pas dévoiler. On va pas dévoiler, mais c'est quand même une course poursuite, quoi.
Oui,
le film, il se construit comme ça.
C'est une histoire de meurtre.
C'est un maître d'hôtel qui justement a pris ce fameux Lobby Boy sous son aile et qui va être accusé de meurtre. Et voilà, ensuite on part quasiment dans un cartoon.
Et là tu évoques la troisième sous-intrigue du film, hein, parce que c'est vraiment des poupées.
Oui, mais je veux dire, la base du
métrage, c'est ça. Et puis voilà, il y a des séquences assez ahurissantes menées à tambour battant avec un rythme assez effréné. Et qui a dû être mûrement travaillé. J'imagine tout le travail de pré-production qu'il y a eu, parce que c'est assez faramineux, des décors extraordinaires, un rythme faramineux. Pour moi, c'est le film de Wes Anderson le plus ambitieux, peut-être le plus compliqué, le plus abouti. Et ça aboutit à son chef-d'œuvre pour moi.
Mais je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que c'est son meilleur film. J'aimais beaucoup le Darjeeling Limited aussi, dernièrement.
La vie aquatique.
Ouais, la vie aquatique, effectivement. Et non, mais je trouve que ce qui apporte le truc en plus par rapport à ses autres films, qui sont des films sur la famille, sur les inadaptés, sur l'amitié, etc., des thèmes très américains, je trouve que là il va un cran au-dessus en ayant une certaine gravité. Il parle de la montée du nazisme par exemple, et je trouve que c'est limite, mais c'est une interprétation à moi, hein. Je trouve que c'est limite un film politique dans la mesure où il nous dit que l'insouciance, la naïveté et la mélancolie quelque part, c'est une certaine forme d'arme face à la barbarie et à la perte d'humanité, quoi.
Alors faut savoir quand même que donc Wes Anderson, il y a quelques années, s'est pris de passion pour Stefan Zweig, le grand auteur, et il a dévoré tous ses romans, tous ses essais, et du coup il a été beaucoup inspiré en fait par Zweig pour tout cet univers donc d'Europe un petit peu des années 30 comme ça, de montée du nazisme, parce que Zweig a bien sûr fui au Brésil pour se cacher des nazis.
Alors, en général, c'est l'inverse, c'est les nazis qui fuient au Brésil.
Voilà, c'était quelques années après ça, mais lui, il a commencé avant. Mais du coup, il y a vraiment cette valse des sentiments aussi. Je ne sais pas si vous avez lu Zweig un petit peu,
non.
Mais c'est extraordinaire, quoi. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas du tout que quelqu'un comme Wes Anderson soit touché, parce que c'est profond, c'est vraiment à la fois des histoires d'amour et en même temps d'amitié, et de ce que tu dis, Raphaël, aussi, comment à un moment donné, chaque être humain lutte avec ses propres moyens.
Exactement, ouais.
C'est-à-dire pas forcément avec des armes, pas forcément avec des idées, des fois c'est juste avec sa manière d'être, quoi.
C'est en vivant, quoi, c'est ça le film. C'est avec d'où les couleurs, quoi, d'où les couleurs.
L'esthétique des hôtels, tout ça, c'est vraiment Zweig, quoi.
Oui, oui.
Et moi, j'ai pu croiser Wes Anderson. Alors, il a pas officiellement proposé de conférence de presse avec de la chance, je l'ai vu au bar de l'hôtel, et je lui ai juste posé une question justement sur Stefan Zweig, et c'est vraiment ça qui m'a dit, c'était cette atmosphère en fait qu'il avait intéressé, qu'il avait touché. Et lui, bien sûr, après, il s'est pas tiré d'une nouvelle de Zweig spécialement, en fait il a fait un peu un mix d'univers, d'intrigue, et c'est inspiré de toute l'œuvre en fait, quoi.
Puis le film, on l'a pas dit, lui est dédié, hein, en tout cas
à la fin.
Et je trouve qu'il y a un truc qui m'a mais vraiment transcendé, on pourrait dire, c'est, sans vouloir spoiler, il y a un passage du film qui est dramatique où il utilise le noir et blanc. Et ça, si je ne m'abuse, c'est une première dans Wes Anderson, quand même, qui est un cinéaste très coloré, très pop. Et je trouve que là, encore une fois, c'est politique. C'est pas anodin d'avoir choisi ce choix de mise en scène-là. Et d'autant plus que je trouve qu'il pousse de plus en plus son côté ligne claire, comme ça, son côté Tintin. J'ai pas pu m'empêcher de penser aussi au. T'as dû le lire, comment il s'appelle ? Le sceptre d'autocar. Tu sais, un petit peu dans les choix des costumes, dans les décors, etc.
Avec des pseudos, des personnages fictifs les mettre en pareil avec des personnages qui ont vraiment existé.
Le côté historique, mais en même temps décalé, voilà, la montée du nazisme. Oui.
Puis la relation quand même primordiale du film entre justement ce maître d'hôtel et son Lobby Boy, elle est très belle aussi, elle est vraiment intéressante, quoi. Il y a vraiment quelque chose là-dedans, je trouve, aussi de fort. Et il a réussi à nous emmener vraiment sur un...
C'est un bon voyage. Et puis c'est très chaplinesque, hein, que ce que tu disais finalement. Chaplin avec Dictateur, c'est vaincre la barbarie avec l'humour et la naïveté. Hein. Comment rire de certaines choses graves tout en y réfléchissant. Et puis
Moi j'aurais juste quelques petits bémols, histoire de quand même jeter l'opprobre un petit peu. Non, mais c'est juste, moi, du coup, le rythme est vraiment soutenu tout le long. C'est vrai que c'est génial, c'est hyper bien fait, tout ça. C'est vrai que moi, peut-être personnellement, j'aurais aimé qu'à des moments ça se pose un petit peu, peut-être juste sur une ou deux scènes. Un petit peu plus. Voilà, première chose. Et seconde chose, c'est un petit peu la pléiade de stars qu'il a invité dans son film. où c'est vrai que des fois on reste un peu sur notre faim parce qu'on les voit 2-3 minutes, à part par exemple Hervé Keitel que je trouve vraiment génial. Enfin, les autres sont bons aussi, hein. C'est pas du tout un jugement sur leur jeu ou quoi, mais c'est de les... j'ai un peu l'impression d'une enfilade de stars à un moment donné, et ça m'a un petit peu, voilà, j'aurais presque préféré qu'ils prennent moins de personnalité, mais qu'ils les fassent jouer mais un petit peu plus longtemps.
Il en joue quand même pas mal, comme Bill Murray avec le rôle qu'il a, ça amène vraiment le côté furtif, hein, un gag en plus, quoi. Le côté la confrérie des clés croisées, oui. J'étais mort de rire.
Ça idées. Marche bien.
Ouais, ouais, mais même le personnage de Robert Amalric,
de Mathieu Amalric.
Mathieu Amalric, qui apparaît grosso modo 5 minutes à l'écran, il est primordial à l'intrigue. Je veux dire, sans lui, sans son personnage, l'intrigue n'avance pas. Oui. Voilà. Et puis deux trois références à Hitchcock qui sont bien, notamment une séquence où
il y a Lou Beach, je viens de le dire.
À Lou Beach, ouais,
la comédie comme ça.
Mais tu vois, moi, Adrien Brody, j'aurais voulu plus le voir, par exemple. J'aurais voulu. Defoe, je trouve qu'on le voit beaucoup, c'est bien justement. Et Brody, j'aurais aimé encore plus voir cette tronche avec ses tentes là. Il y a quelque chose.
Mais Defoe, il se paye quand même la meilleure séquence du film, la course poursuite en ski.
Ah oui.
Enfin, c'est hallucinant.
Enfin, même la séquence dans le musée, hein, qui est repris du rideau de Shirley Hitchcock, où Paul Newman essayait d'échapper à son garde du corps qu'il poursuivait en rentrant dans un musée alors qu'il allait fermer.
Ouais, c'est génial. Et j'aimerais juste finir, moi, sur Martin Scorsese. Il pense que c'est le plus grand cinéaste de sa génération, et je le pense de plus en plus aussi.
Et il y a également Brian De Palma, avec qui...
Il le pense aussi, De Palma.
Oui, d'ailleurs, Brian De Palma est très ami avec Wes Anderson, il dîne régulièrement. C'est l'un des seuls réalisateurs que Brian De Palma côtoie régulièrement.
Les vieux de la vieille, il adoube, alors.
Ben oui. Voilà, je pense que c'est vraiment... C'est mérité,
ouais. On a bientôt, ça va devenir vraiment obligatoire de passer pour un acteur dans un film de Wes Anderson.
Comme certains passent maintenant dans tous les Woody Allen, maintenant c'est devenu une normale, primordiale d'apparaître dans un Woody Allen.
Même les assez doux
pour les Wes Anderson, ça va être pareil. Ouais, mais elle joue toujours aussi mal.
En temps, il y a deux phrases.
Ça. Ah, vous êtes mauvais, les gars. Allez, je vous coupe la chic, puisque c'est ça, on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve après pour parler un petit peu plus des vampires et plus particulièrement du dernier film de Jim Jarmusch. Started working, I can't sleep, no I can't sleep. I keep feeling the light, so I think I should get up and call you. Gonna find you, and it's fun. Thinking of you like a movie star, and it's dumb. Thinking of you like the way that you are. Everyone loves you, the boy in the corner, the postman, the policeman. It does me no good to keep looking ahead at your future adoration, and it's fun thinking of you like a movie star, and it's dumb thinking of you like the way that you were. Every moment like a sudden pleasure, every moment that will get you by, and it's gonna cause a crisis. Might just lose a little faith. I've seen all kinds of strangers, the rich and the famous. They don't count, no they don't count. Now I'm back on my feet on the same greasy street. There's an angel on my shoulder saying ho. Have a drink, have a seat at the bar. Tell me all about your men and your hopes and the hours of your life. You could love. After all, that's what you're looking for. You can love. It's a currency unspoken of, but it's
it's hard to form a good opinion. If you're gonna look at me that way, and it's gonna cause a crisis, might just lose a little faith. Don't touch me, if you touch me, you can never go back. Sister, have a drink, have a seat at the bar. Tell me all about your men and your hopes and the hours of your life.
L'entretien. Deuxième partie de ce Confluence Cinéma, on va donc maintenant parler du dernier film de Jim Jarmusch. Alors, qui c'est qui a envie de nous faire un petit peu le pitch de cette histoire?
Alors, je vais m'y atteler. Only Lovers Left Alive. Seulement les amoureux vivent, restent en vie. Alors, c'est le nouveau film de Jim Jarmusch qui n'avait pas fait de film depuis 2009, depuis Limit of Control, qui avait été descendu par la critique. Et je me souviens qu'à l'époque, à Radio Brume, j'étais le seul à défendre le film. J'y trouvais un petit intérêt. On lui reprochait entre autres de ne pas avoir d'histoire. Bon, même si les personnages, le personnage de... Je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur.
Isaac de Boncol.
Voilà, exactement. Qui partait d'un point A à un point B. Il y avait quand même un but qui permettait d'avancer le récit. Et bizarrement, paradoxalement, c'est ce que je reprocherais à ce film-là. Alors, de quoi raconte le film? Ça raconte l'amour éternel de deux êtres, deux vampires. On nous fait voir que c'est des vampires. Moi, j'ai une autre vision, j'ai une autre théorie, mais bon, on en parlera après. Deux vampires qui vivent éloignés. Lui, qui s'appelle Adam, vit à Détroit, et elle, qui s'appelle Ève, habite à Tanger. Donc, lui est compositeur musique raté. Et elle, bon, c'est pas vraiment ce qu'elle fait. Elle adore la littérature.
Il n'est pas vraiment compositeur raté, quoi.
Il est caché.
C'est plutôt une légende, quoi.
Oui, voilà. Oui.
Il a aidé Schubert quand même à écrire.
Oui, c'est vrai, effectivement. Oui.
Tous ses disques passent dans tous les clubs et tout.
Oui, oui.
C'est vrai.
Il est caché.
Et finalement, au bout d'un moment, ces personnes vont se rendre compte qu'ils se manquent. Et donc, du coup, ils vont décider de se rejoindre. Donc, elle va partir à Détroit, va quitter son Tanger et va aller à Détroit. Sauf si je m'y suis endormi et c'était pas loin, car je trouvais que le film avait un effet assez psychotique sur moi, ce qui n'était pas désagréable parce que je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance, une bonne musique, etc., etc. Le reproche que je ferais au film, c'est que je trouve que même si les personnages vont d'un point A à un point B et qu'il y a un but dans chacun de ces personnages, je trouve que Jim Jarmusch n'arrive pas à lier les différents thèmes qui caractérisent son histoire. Est-ce qu'on parle de la création? Est-ce qu'on parle de l'amour éternel? Est-ce qu'on parle du vampirisme? Est-ce qu'on parle de la drogue? Est-ce qu'on parle des relations conflictuelles entre une grande sœur et sa petite sœur au sein d'un couple? J'ai pas su retrouver ça. Bien que je trouve d'énormes qualités au film, la bande originale, comme je viens de le dire, mais surtout comment Jim Jarmusch filme Tanger, qui est une ville que je connais un petit peu, avec dans le clair-obscur, la nuit, avec des néons, un peu comme Refn avait fait pour Bangkok dans Only God Forgives.
Il y a un côté bohème, un petit peu là-dedans.
Voilà, tout à fait. Et justement, l'image qu'il envoie de Détroit, qui est beaucoup plus sombre, où c'est pas toujours la nuit, à l'inverse de Tanger. Moi, je trouve que finalement, c'est pas un film de vampire. Je trouve que les mythes du vampire et les codes du vampire se substituent à l'univers un petit peu des artistes underground. Finalement, ces personnes qui vivent que la nuit, sous prétexte qu'ils sont vampires. Moi, je pense... Il y a plein d'artistes qui, même Scorsese à une époque, vivaient la nuit. Kubrick vivait la nuit et pas le jour. Et toutes les séquences où on les voit leur dealer pour récupérer ce sang pur qui leur permet de vivre, ça rappelle tous ces artistes, ces grandes stars du monde underground qui vont chez leur dealer pour prendre leur dose de coke, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que finalement, le thème du vampire, c'est un prétexte. Et il y a peut-être aussi une chose qui m'est personnel, c'est Tilda Swinton, c'est une actrice que je n'ai jamais aimée, qui m'a jamais attiré, que j'ai jamais trouvé belle, et je trouve que c'est un argument quand même pour adhérer ou apprécier le jeu d'une actrice. Et là, bon, ça lui va bien. Elle joue le rôle d'une vampire assez, qui a un look assez Gary Oldman dans Dracula de Coppola, avec une grosse
coupe. C'est surtout Tom Hiddleston, mais il m'a fait penser à Gary Oldman. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'elle est insignifiante comme d'habitude. C'est peut-être ça qui a fait que je n'ai pas adhéré à 50% au film, bien que plus j'y pense, plus les jours passent et plus je trouve que le film, malgré les défauts que je lui attribue au scénario, a une atmosphère assez spéciale, assez onirique, assez addictif, avec une belle BO. Et bah, je pense peut-être que plus les jours arriveront, plus les mois passeront et plus mon avis changera. C'est un Jim Jarmusch assez mitigé, un peu mieux que son, un peu plus appréciable, un peu plus meilleur que son précédent.
Mais c'est intéressant ce que tu dis en tout cas, puisque son dernier c'était une relecture entre guillemets du thriller, du polar.
Avec une bonne influence.
Voilà, et là il nous lit en fait sa relecture du mythe vampirique. Et je trouve personnellement qu'à l'ère de Twilight et autres bousasses vampiriques, puisque j'adore le cinéma d'horreur comme toi et le mythe du vampire, je trouve qu'en tout cas il y a une vraie proposition. Les montrer comme des rockstars et comme des junkies, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au 21e siècle, c'est pas si con que ça.
Oui, renouveler ça. Non,
mais attendez, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est que c'est quand même aussi, Jarmusch, il y a quand même toujours une part vachement autobiographique aussi. Il y a vraiment aussi de lui. Et c'est quand même l'univers qu'il a fréquenté. Jarmusch était pote avec le tout New York, Basquiat et compagnie, punk des années 80.
D'ailleurs, Basquiat, il est dedans.
Qui ressemblait un petit peu à Détroit aujourd'hui. Mais justement, on voit là-dessus que Jarmusch n'est pas du tout dans une vision nostalgique et retrouve son New York dans le Détroit actuel, mais plutôt très critique en disant que, voilà, à un moment donné, maintenant, c'est plutôt une ville laissée à l'abandon, qu'il n'y a pas de vraie émulsion artistique, en fait, quoi.
Et oui, donc entièrement. Et donc, pour en venir sur le vampire, je trouve que Jarmusch ait une très bonne idée. Voilà, en faisant ça, il arrive, je trouve, en trahissant, entre guillemets, certains codes du mythe vampirique, à retrouver l'essence même du mythe, c'est-à-dire le côté spleen, le côté existentiel, le côté romantique, le côté désespéré, qu'on n'avait plus depuis pas mal de temps dans les mythes de vampires. Et je trouve que le film n'est pas tant que ça un film, codifié, mais plus un film sur la fin d'un monde, en tout cas. Les vampires, ils parlent de l'être humain comme des zombies. On sent ce côté fin du monde, ce côté fin du néant, comme ça. Et c'est un film, je trouve, très mélancolique. Ça parle, en fait, de tout ce que l'homme va laisser derrière lui en tant que création. Ça parle quoi de ça, quoi de la création depuis... il s'appelle Adam et Ève, donc c'est pas un hasard. Depuis que l'homme est l'homme, quoi. Ça parle de Hamlet, ça parle de Basquiat, ça parle... voilà. C'est quoi, aujourd'hui, que de créer au 21e siècle, et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Et je trouve que c'est très intelligent. Même si je suis d'accord avec toi, je trouve que le film est assez... assez rondondant, en fait. Je trouve qu'il se repose un peu trop, justement, sur ce côté-là, et qu'il aurait bien fait de couper, en fait, bien 20 minutes du film, quoi. Je trouve la fin très, très belle, très bien emmenée, justement, très romantique, mais c'est un peu lent, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu lent. Ce qui nous fait un peu décrocher du film par moment, ce qui est dommage, tu as raison, il y a vraiment une atmosphère ou une ambiance comme ça, assez glauque et assez bien pensée, je trouve.
Alors moi, j'ai vraiment adoré ce film. Je trouvais que c'était un très beau film. Et pour moi, ce qui joue là, ici, ma vision, en tout cas, moi, c'est l'immortalité, en fait. Je pense vraiment que Jarmusch, il interroge l'immortalité et comment, à un moment donné, on vit l'amour, on vit l'art. Il y a aussi beaucoup de références scientifiques. On vit l'évolution des mondes en étant, justement, ces êtres immortels. Et je pense, pour moi, c'est pour ça qu'il choisit les vampires, en fait. Je pense qu'il s'en fout de tout le côté classique. Je pense qu'il y a aussi une réponse à Twilight et à toutes les daubes actuelles qu'il y a sur les vampires. Mais je pense que c'est surtout vraiment cette question de l'immortalité et de l'amour. Et de l'amour comme... moi, je vois Jarmusch qui amène ça presque à un côté un petit peu mythologique, mythique. Des Tristan et Iseut, des grandes histoires d'amour de l'Odyssée, parce que c'est quand même des amoureux. Ça fait plus de 1000 ans qu'ils sont ensemble, qu'on comprend qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble, qui se remarie, et il y a quelque chose qui est vraiment interrogé à ce niveau-là. Après, moi, j'ai trouvé tu vois, le patchwork un petit peu de passer des questions sur l'art, sur l'amour, ça m'a pas gêné spécialement. J'ai trouvé ces interrogations par rapport à tout ce qui était un petit peu la modernité, parce qu'il y a quand même le personnage féminin qui se rapproche plus de la modernité, qui a des iPhones, qui a envie quand même de laisser un petit espoir à l'humain. Et l'autre, Adam, qui est complètement névrosé, qui ne croit plus en rien, qui est sans arrêt en train de dire c'était mieux avant. Il y a une vraie, il y a vraiment quelque chose là-dedans entre ces deux façons un petit peu de voir le monde. Moi, je pense vraiment que c'est un des meilleurs Jarmusch pour moi. Moi, il m'a rappelé son premier Permanent Vacation, même si ce n'est pas du tout... le même type de film, mais il y a une atmosphère comme ça, assez triste, assez mélancolique. Et moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un beau film et que, qu'il y avait voilà, pas mal de choses. Après, moi, j'aurais préféré effectivement qu'au niveau du scénario, il y ait un ou deux petits pics en plus qui nous fassent monter un petit peu l'adrénaline. Le passage de la sœur, par exemple, peut-être qu'elle arrive avant, qu'il y ait deux, trois choses. Mais je pense que lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il y a aussi tout le travail avec la musique, en fait, d'amener quand même les cinq premières minutes du film, elles sont quand même assez extraordinaires.
Il faut raconter ça.
C'est, la manière dont ça tourne.
Ça tourne, les étoiles comme ça, la caméra tourne dans les étoiles et le stris comme ça des étoiles forme en fait le stris d'un vinyle. Et ça, c'est magnifique. Pour le côté immortel, justement, le motif du rond dans le film est quand même du vraiment cercle, très, très bien pensé. Sûr, hein. Ok, non?
Non, mais je confirme ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là.
Bon, et ben on va du coup vous repasser un petit coup de musique et on se retrouve pour justement parler un petit peu des vampires.
Qui revient enfin parce qu'il y a Académie Vampire qui sort. Hein.
Oui, aussi.
Voilà, donc on est vraiment dans le feu de l'actualité.
Allez, c'est parti.
L'entretien.
Alors, dernière partie de ce Confluence Cinéma, et on va donc parler un petit peu des vampires au cinéma. Alors, qui c'est qui veut commencer, messieurs ?
Oui, alors, je vais commencer car, au final, le mythe du vampire tel que nous le connaissons maintenant, grâce à Bram Stoker, va naître pratiquement au même moment que le cinéma. Le cinéma a été inventé en 1895 par les frères Lumière et Bram Stoker écrit Dracula en 1898. Et très rapidement, alors pour beaucoup, enfin pour les non-cinéphiles, Le Vampire est né sous les traits de Bela Lugosi au cinéma, j'entends par là, grâce à Bela Lugosi dans les années 30 en 31 à la Universal, grâce à Dracula. Mais la première adaptation du cinéma du roman de Bram Stoker, c'est Murnau avec Nosferatu en 1922. Alors, c'est une adaptation maquillée, car malheureusement, ils n'avaient pas eu les droits d'auteur du roman de Bram Stoker. Donc, du coup, ils vont modifier le nom du conte. Ce ne sera pas Dracula, ce sera Nosferatu. Et l'action se passe à un autre endroit, dans un univers imaginaire. Pourtant, tout est là déjà, ce qui ne va pas empêcher la fille de Bram Stoker de leur faire un procès. Donc, c'est un film très entré dans l'esthétique de l'expressionnisme allemand, sublime, très très joli, et vraiment un film à voir, ne se fera tout. C'est un film mieux à voir, c'est je pense celui-ci. Et très rapidement, en 1931, Dracula va arriver grâce à la firme la Universal, à qui va décider de va faire sur une 10 série ans, de monstres. Une série de monstres. Il y aura les Frankenstein, il y aura l'homme invisible, il y aura le loup-garou, etc., etc. Et là, le vampire prend les traits de Bela Lugosi, qui était hongrois, je crois, qui arrive et qui avait déjà interprété Dracula à Broadway juste avant et qui là va faire son grand numéro. Mais on est quand même dans une adaptation assez, on va dire, pas édulcoré, mais on est à une période où la censure tombe, le code ACE, et donc du coup une chose qui pourrait être choquante quand on sait que la grande marque du vampire, des films de vampires, c'est finalement l'acte où le vampire va croquer ses dents dans les veines de sa victime. La fameuse séquence où Bela Lugosi croque sa première victime, elle est montrée hors champ, c'est-à-dire qu'il prend sa cape et il se masque. Et il ne fallait pas montrer cet acte-là. Donc après ça, grand succès, il va y avoir plusieurs autres films, hein, donc Le Fils de Dracula, il y aura même Jesse James contre Dracula, interprété par le père de David Carradine, John Carradine, qui à l'époque tournait beaucoup pour John Ford. Et le premier grand changement du mythe de Dracula, qui va vivre sa première révolution, elle va arriver grâce aux productions Hammer dans les années 50-60. Il va y avoir l'arrivée de la couleur, qui va changer beaucoup de choses, car maintenant on verra le sang en couleur, même si on va dire voilà, ça ressemble plus à du jus de tomate qu'autre chose.
C'est Godard qui disait les gens n'aiment pas en fait le sang, ce qu'ils n'aiment pas c'est la couleur rouge.
Voilà, et il disait dans Pierrot le Fou, il n'y a pas du sang, il y a de la couleur rouge.
Ouais, c'est ça.
Ce que Tarantino reprendra quand il fera la promotion de Kill Bill Volume 1 pour la séquence en noir et blanc.
Mais c'est entièrement le cas, c'est ce qui fait peur.
C'est vrai. Mais là, dans les films de la Hammer, il y aura autre chose. Il y a Christopher Lee qui arrive, qui va donner son physique à 1m90, son côté très dandy, très bel homme, bel âtre, à l'image du Dracula, qui était plus un freak, un monstre, pas si gentleman que ça. Et il va y avoir l'aspect érotique qui va changer beaucoup de choses, car ces films-là vont arriver à une période où l'émancipation sexuelle, la grande ouverture sexuelle va arriver, les années 60. Et là, l'acte fondateur de la morsure du vampire sur sa victime sera plus assimilé à un acte sexuel plus qu'autre chose. Et puis, il y a toutes ces... ce qui va être la marque des films de la Hammer, c'est ces femmes avec des grands décolletés, des grosses poitrines qui vont rajouter un peu plus au côté érotique. Et puis bon, ça va durer plusieurs années, 10 ans, avant que le vampire touche un peu le fond. Andy Warhol va apporter une nouvelle... va s'exercer aussi au film de vampire avec Sang pour Dracula.
Avec Udo Kier dans le rôle de Dracula.
Ouais, et Paul Morrissey, que j'ai pas vu.
J'ai vu que la bande-annonce, c'est assez gratiné quand même.
Et il fera la même chose avec de la chair pour Frankenstein. Oui. Et en 79, il va y avoir un autre film de John Badham, donc une nouvelle adaptation du roman de Bram Stoker. Après que Herzog ait fait un remake, une nouvelle fois, j'espère que les auditeurs me suivent, de Nosferatu, cette fois-ci la version de Murnau, où Klaus Kinski reprenait les traits de Marc Schreck et campait un tandem assez magnifique avec Adjani. Et les années 80 voient arriver un phénomène assez dramatique et l'arrivée du sida, et ça va permettre à des metteurs en scène, entre autres Tony Scott, d'ancrer le vampire notre quotidien, dans un monde un peu plus moderne. Et tout ça va aboutir à un film qu'on aime beaucoup avec Raphaël. Je dis pourquoi nous ? Parce que malheureusement, c'est un film qui est, à mon sens, à notre sens, un peu sous-estimé, même trop. Et ce film, c'est Les Prédateurs, avec Bowie et Catherine Deneuve.
Oui, c'est un film magnifique qui parle aussi du côté lesbien aussi. Il y a aussi une histoire d'amour entre Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve, une histoire d'amour entre David Bowie et Catherine Deneuve. Et il y a ce côté aussi vieillissement. Il y a une magnifique séquence où David Bowie prend 500 ans dans la tête en 2 minutes. C'est vraiment une prouesse. Et à l'époque, qui est intéressant, dans les années 80 et puis un petit peu avant, 70, 1986, hein, tu parlais justement du Herzog, hein, mmh. Il y a une sorte de réinterprétation, une sorte de reprise du mythe de vampire, on va le muter comme ça avec d'autres genres du cinéma, on pourrait dire. Donc il y a comme ça, évidemment, on parle de Tony Scott, les Predators, c'est plus vers le côté du clip, ça commence sur Bela Lugosi Death, donc ça veut tout dire. Voilà,
Bela Lugosi Death,
voilà,
donc hommage à...
On en a fini avec la période Universal Monster, là on est dans un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus réaliste, entre guillemets. Cette fois-ci, les vampires attaquent avec un pendentif qu'ils mettent dans la jugulaire, etc. Il n'y a plus les crocs, etc. Donc là, on est plutôt du clip. Il y a aussi le côté western qui arrive aussi, hein, avec Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, qui est un très très bon film aussi, une très grande histoire d'amour, mais qui frôle vraiment dans le côté western, dans le côté frontière, justement, le côté jour-nuit, qui est des très bonnes trouvailles comme ça. Il y a aussi le John Landis, qui n'est pas terrible, mais qui propose, je trouve, des trucs intéressants, qui est Innocent Blood, qui n'est pas très connu, avec Anne Parello dans le rôle d'un vampire. Et cette fois-ci, il emmène Landis le côté vampirique vers le côté du film de mafieux, par exemple. Donc, forcément, ça me plaît un petit peu. Mais je trouve que ce n'est pas si con que ça. Tu vois, il y a des trouvailles comme ça. On emmène le vampire vers d'autres gens. Et ça nous amène, évidemment, en 1992-93, je ne me rappelle jamais, au fameux Dracula de Coppola, qui va réinterpréter le fameux roman de Bram Stoker.
Et qui est le plus fidèle.
Ah oui, c'est magnifique, hein, le début, vraiment. Épique, une magnifique séquence d'armée.
Parce que le Dracula de Bram Stoker s'inspirait d'un guerrier qui
Vlad l'Empaleur.
Vlad l'Empaleur,
qui a vraiment existé. Hein.
Qui, alors, il a combattu les Turcs, c'est ça. Ouais, mais lui était de quel pays, hein?
Il était des Carpates.
Des Carpates, ouais. Qui a combattu les Turcs et qui, selon la légende, aurait empalé plus de 100 personnes.
Donc c'est ultra violent, c'est ultra gore le début du Coppola. Puis après on tombe encore une fois dans ce côté, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté spleen, le côté amour éternel qu'on retrouve vraiment avec le mythe du vampire. Et là Coppola reprend tous les armes du cinéma, il nous refait un peu à la sauce moderne, une sorte d'expressionnisme. Je ne sais pas ce que tu en penses du film, mais pour moi je trouve que c'est vraiment un très très grand film.
Alors que c'est un film qu'il a fait pour bouffer, hein, qu'il ne voulait pas faire.
Ah oui, entièrement.
Studio. Et puis il revient aux sources du cinématographe, parce qu'à un moment donné, Gary Oldman arrive à Londres et c'est le début cinématographe, il est filmé avec un cinématographe.
Voilà.
Il y a beaucoup de jeux de maquettes, c'est un film un film de maquette un peu par moment, un bout d'effets spéciaux. Et Gary Oldman fait une
scène. Des tableaux en verre, etc. Il y a vraiment des trouvailles comme ça qui sont. Puis Tom Waits aussi, qui joue le serviteur de Dracula. Enfin, il y a vraiment des vraies grandes trouvailles. Et puis après, évidemment, il y a la télévision qui va arriver. Et qui va reprendre, qui va réinitialiser un petit peu le modem. Mais évidemment, Buffy contre les vampires, je crois qu'on ne peut pas passer outre cette série qui a vraiment réactualisé ça, qui a emmené un côté jeune dans les années 90, qui témoigne un peu de l'adolescence, des vrais problèmes aussi de l'époque. On parle beaucoup du féminisme, par exemple, la peur de rentrer dans l'âge adulte. Et ça, c'est bien avant Twilight, déjà à la base. Et encore aujourd'hui, beaucoup de séries télé comme True Blood, etc., évoquent tous ces problèmes-là, des problèmes sociaux. Là, c'est plus la Louisiane, les côtés un peu plus glauques, le côté un peu chômage, le côté crise, pour parler encore une fois du mythe du vampire. Mmh. Puisque le vampire, finalement, c'est vraiment un moyen, comme on le disait avec Jim Jarmusch, d'avoir sa propre interprétation sur le monde. Un peu comme le zombie avec Romero, par exemple.
Oui.
C'est un moyen de parler du monde.
Mais il y a aussi une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que le vampire a été étudié à des fins parodiques, comiques.
Oui, évidemment.
Un des premiers, ça a été Roman Polanski, hein, qui a fait un très bon film, un de ses meilleurs.
Parodie.
Hein. Donc le bal des vampires. Tout ça pour dire que plus les années avancent, c'est plus finalement les codes instaurés par Bram Stoker, par la littérature et par, le mythe du vampire se substituent finalement à
notre question du temps.
Question finalement, le vampire n'a plus peur du soleil, n'a plus peur des crucifix, n'a plus peur de l'ail, etc.
Il a peur de s'engager dans Twilight. Ouais. C'est un problème.
C'est ça. Ouais. Et puis bon, il y a la nouvelle comédie Académie Zombie, Académie Vampire d'après.
Puis, pour finir, on l'a mis à toutes les sauces. Même les Charlots ont lutté contre Dracula. Oui, même Bernard Ménez était le fils de Dracula.
Oui, il y a même eu des productions avec la Shaw Brothers. Il y a même les 7 vampires d'or. Donc comment le kung-fu et les vampires s'associent. Donc finalement, c'est un mythe qui a été mijoté à toutes les sauces, au pire comme au meilleur.
Ok, messieurs, eh ben, écoutez, super. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux films. Qu'est-ce qu'on a au programme?
Il y a un film sur la création de Mary Poppins, donc un film avec, sur Walt Disney. Et il y a un film que je veux voir, le nouveau Volker Schlender sur comment en fait, Hitler a voulu détruire Paris en, fait, en partant en 1945.
Avec Nina Restrup et Dussolier.
Moi, ça me fait bien envie sur le papier. Donc, je pense que je ferai ça la semaine prochaine.
Même si j'ai pas eu des bons retours, mais j'irai le voir.
Eh ben, ça marche. Bonne semaine, en tout cas.
Ciao, ciao.
À très bientôt sur Brume. Voilà.